Coulisses politiques avec Henri Vernet.
Au moment où je m'exprime, des attaques terroristes d'une ampleur sans précédent sont en cours dans l'agglomération parisienne. Il y a plusieurs dizaines de tués. Il y a beaucoup de blessés. C'est une horreur. Nous avons, sur ma décision, mobilisé toutes les forces possibles pour qu'il puisse y avoir la neutralisation des terroristes et la mise en sécurité de tous les quartiers qui peuvent être concernés. J'ai également demandé qu'il y ait des renforts militaires. Ils sont en ce moment sur l'agglomération parisienne pour être sûr qu'aucune attaque ne puisse de nouveau avoir lieu. J'ai également convoqué le Conseil des ministres. Il va se tenir dans quelques minutes. Deux décisions seront prises. L'état d'urgence sera décrété, ce qui veut dire que certains lieux seront fermés. La circulation pourra être interdite et il y aura également des perquisitions qui pourront être décidées dans toute l'Île-de-France. L'état d'urgence, lui, sera proclamé sur l'ensemble du territoire. La seconde décision que j'ai prise, c'est la fermeture des frontières. Nous devons nous assurer que personne ne pourra rentrer pour commettre quelque acte que ce soit. Et en même temps que ceux qui auraient pu commettre les crimes qui sont, hélas, constatés puissent également être appréhendés s'ils devaient sortir du territoire. C'est une terrible épreuve qui, une nouvelle fois, nous assaille. Nous savons d'où elle vient, qui sont ces criminels, qui sont ces terroristes. Nous devons, dans ces moments si difficiles, et j'ai une pensée pour les victimes, très nombreuses, pour leurs familles, pour les blessés, nous devons faire preuve de compassion et de solidarité. Mais nous devons également faire preuve d'unité et de sang-froid. Face à la terreur, la France doit être forte, elle doit être grande, et les autorités de l'État fermes, nous le serons. Nous devons aussi appeler chacun à la responsabilité. Ce que les terroristes veulent, c'est nous faire peur, nous saisir d'effroi. Il y a effectivement de quoi avoir peur. Il y a l'effroi, mais il y a, face à l'effroi, une nation qui sait se défendre, qui sait mobiliser ses forces et qui, une fois encore, saura vaincre les terroristes.
Bonjour, vous venez d'entendre François Hollande, alors président de la République, le soir des attentats terroristes islamistes du 13 novembre 2015. Avec vous, François-Xavier de Calonne, coulisses politiques, avec Henri Vernet, un épisode consacré aux 10 ans de ces attentats, une date gravée à jamais dans la mémoire nationale. 10 mois après les attentats du 7 janvier, la France basculait de nouveau dans l'horreur. 130 morts, des centaines de blessés, des vies brisées au Bataclan, sur les terrasses parisiennes, au Stade de France, à Saint-Denis. 10 ans plus tard, comment la France a-t-elle évolué face à la menace terroriste? Quels enseignements en avons-nous tirés et quelles nouvelles formes de radicalisation menacent aujourd'hui la démocratie? Pour en parler, Henri Vernet, journaliste politique, rédacteur en chef adjoint au Parisien aujourd'hui en France. Bonjour.
Bonjour.
Henri Vernet. Ensemble, nous reviendrons sur le souvenir de cette nuit tragique, l'évolution de la menace terroriste islamiste, mais aussi sur l'émergence d'autres formes d'extrémisme, notamment de l'ultra-droite, hein, dans un contexte où la peur, la méfiance, la polarisation politique restent très présentes. Or, comme à chaque moment particulièrement tragique de l'histoire, hein, le 11 septembre 2001, le 7 janvier 2015, l'attentat dans la rédaction de Charlie Hebdo, suivi de plusieurs autres attentats, le 7 octobre 2023, l'attaque du Hamas en Israël, et bien chacun d'entre nous se souvient de l'endroit où il était lors de ces attaques d'une ampleur inédite en France, ce 13 novembre 2015. Henri Vernet, tout simplement, en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous faire part des sentiments qui ont dominé au fur et à mesure chez vous de cette soirée sanglante?
Au début, une totale incrédulité. Et puis, il se trouve que ce soir-là, justement, j'étais avec plusieurs journalistes, une soirée un petit peu vernissage. Et donc, les uns et les autres, évidemment, on était assez vite informés par nos canaux habituels, j'allais dire Twitter et autres, toutes les différentes boucles. Et donc, quand on voit ça, on s'interroge, on se regarde, on n'arrive pas à bien comprendre. On parle d'abord du Stade de France, d'une explosion, et puis, en effet, d'attentats dans les rues de Paris. Donc là, c'est la sidération. Mais comme je le disais, on était plutôt, enfin en majorité des journalistes. Moi, ce qui s'est passé, c'est que évidemment, j'ai été en contact avec ma rédaction. J'étais pas très loin, puisque à l'époque, le Parisien était à Saint-Ouen, donc en Seine-Saint-Denis, tout à côté, enfin non loin du Stade de France. Donc j'y suis allé assez rapidement. Enfin, il devait être quand même plus de 23 heures quand on a commencé à voir un peu les choses. S'assurer déjà qu'on pouvait circuler. Et je me souviens, mais vraiment, de ces rues totalement vides où d'abord, nous, on pouvait circuler en tant que journaliste, mais je pense que cette sidération, elle avait saisi la capitale immédiatement. Et donc, je me suis rendu à mon journal, et là, évidemment, il y avait déjà beaucoup de monde. Alors, ceux qui étaient restés, puisque le Stade de France était survenu avant le bouclage classique, tout simplement, du Parisien, mais surtout, d'autres comme moi étaient revenus, et là, on est parti pour une nuit blanche, assez nombreux, au journal, à la rédaction, pour préparer un numéro spécial.
Une nuit d'horreur, hein, comme l'avait souligné François Hollande, alors président de la République. Une unité nationale est née après ces attentats, comme après ceux de janvier 2015. On se souvient de cette marche, de ce rassemblement du 11 janvier à Paris. L'action, le discours du président de la République François Hollande, aussi du ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve, a-t-elle participé à la préservation de l'unité nationale en France à l'époque?
Bon, il faut quand même bien se souvenir qu'il y a eu plusieurs stades, hein, et bien évidemment plusieurs discours et surtout plusieurs réactions. Il y a quand même une chose qui a été frappante dans les heures qui ont suivi. Alors d'abord, les mots qu'on a écoutés en introduction de cette émission, ce sont les mots qui ont été prononcés par le président, donc par François Hollande, avant minuit. Il était 23h58, on avait bien noté ça, on était encore une fois à la rédaction du Parisien. Il s'exprime alors que Hollande, il était au Stade de France, donc il a vécu ce tragique événement, enfin le début en direct. Il a d'ailleurs été évacué de manière assez discrète du stade pour ne pas créer un affolement général. Et puis il s'est rendu à la cellule de crise place Beauvau au ministère de l'Intérieur, où il a retrouvé le Premier ministre qui était Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur. Très vite, une espèce comme ça de cellule d'urgence s'est constituée pour comprendre ce qui se passait. Parce qu'on l'entend dans les mots de François Hollande. Le François Hollande qui parle là, il n'a pas préparé son intervention télévisée. Il est encore sous l'émotion quand on l'entend dire « c'est l'horreur ». C'est quand même quelque chose qui est saisissant de la part d'un chef de l'État qui est là justement pour protéger. Et donc, ils sont dans cette cellule de crise. Après, ils réunissent dans la foulée. Donc, tout cela entre 22h30 et minuit, hein, le 13 novembre au soir, ils réunissent un conseil des ministres dans la foulée où les gens les rejoignent, dont par exemple le ministre de la Défense, qui était à l'époque Jean-Yves Le Drian, qui est intéressé par le cours des événements, tout comme l'Intérieur, la Justice, c'était Christiane Taubira. Et donc, ils sont rejoints par les autres membres du gouvernement, et il y a vraiment le pays qui est dans un état d'urgence totale. Que faut-il faire? Et d'ailleurs, dans ces minutes-là, très très vite, l'état d'urgence est décidé et proclamé par le chef de l'État. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez fort.
Et donc, François Hollande, qui comprend tout de suite le risque de division au sein de la société française, avant même la fin de ces attaques sanglantes.
Oui, alors il le comprend d'autant plus vite que la France avait déjà éprouvé de tels attentats 10 mois auparavant. Vous l'avez cité, c'était Charlie Hebdo. Mais là, on sent quand même que l'atmosphère est différente. Et d'ailleurs, c'est par exemple, moi je me souviens du témoignage de Manuel Valls, qu'on avait eu assez rapidement. Après Charlie, il y a une émotion considérable, il y a une solidarité, il y a une tristesse qui s'empare du pays, et cette idée de faire bloc. En effet, avec cette fameuse marche qui interviendra le dimanche suivant, où tout le monde se retrouve, et en plus qui est menée par les autorités de la République, donc le président, le gouvernement, mais surtout une cinquantaine de chefs d'État, de dirigeants du monde entier. L'atmosphère, elle est recueillie. Là, c'est différent. Et quand je citais Manuel Valls, c'est parce qu'il nous avait raconté que dès d'emblée, quand ils se rendent, lui et les autorités, notamment policières, auprès du Bataclan, où on ne sait pas encore comment les choses peuvent tourner. Est-ce qu'il y a encore des otages dans la salle? Est-ce qu'il y a d'autres, les terrasses, donc des bars ont été visées également? Est-ce qu'il y a encore des commandos qui sont dans les rues de Paris et qui pourraient encore agir? Eh bien, à ce moment-là, il nous racontait que ce qui était frappant, c'était plutôt la colère des gens, la colère et la peur. Et ça, ça va durer. On n'est plus dans la solidarité, l'émotion, comme en janvier après Charlie Hebdo. Là, c'est davantage vraiment la colère qui s'exprime. Sous plein de registres, hein, pourquoi vous n'êtes pas mieux protégé, pourquoi, mais finalement, qu'est-ce qu'est allé faire la France en Syrie, en Irak, à s'occuper de lutter contre Daesh? Voilà, vous nous avez exposé. L'atmosphère, elle est quand même différente. Alors oui, vous avez raison, à la fois l'action et les discours, les mots des autorités vont être en effet, certes, pour éviter toute division, pour éviter, on le sait, hein, tout amalgame, il s'agit d'attentats islamistes, mais pour autant, il y a une communauté musulmane, il y a des Français musulmans qui sont très nombreux, donc il s'agit surtout d'éviter de mettre l'opprobre sur qui que ce soit.
On se souvient d'ailleurs des réactions des représentants, si je puis dire, des Français de citoyens de confession musulmane. L'ensemble de ces représentants, à l'époque, le Conseil français du culte musulman était une instance représentative, et il avait évidemment, très clairement condamné ces actes terroristes. Et tous les musulmans avaient haussé le ton face à ces actes. Et il y a une expression, pas d'amalgame.
C'est ça, juste, pas d'amalgame. Oui,
et qui pourtant ne passait mal.
Elle passait mal, c'est vrai, auprès d'une partie de la population. Alors sans doute pas majoritaire, parce qu'en même temps, il n'y a pas eu la société française... Elle n'a pas été, en tout cas, clivée au point qu'il y ait vraiment eu des violences extrêmement importantes, au point qu'on ait vu les Français se dresser les uns contre les autres. Il y avait certes la colère dont je parlais, il y avait l'attente aussi hein, de résultats, agissez. D'abord, il fallait démanteler le réseau, il fallait arrêter les auteurs survivants, parce qu'il y avait beaucoup de kamikazes, hein, donc il y en a un seul, en réalité, qui avait pris la fuite, c'était Salah Abdeslam, qui sera jugé plus tard. Mais il fallait vraiment convenir à tout cela, quoi, dans un temps immédiat. Mais c'est vrai, oui, ce pas d'amalgame a joué un grand rôle, et ça a été la préoccupation des autorités, mais quand même, d'abord, de réconcilier le pays, mais rendre hommage aux victimes. La configuration, encore une fois, elle était encore plus lourde qu'en janvier, d'abord parce que ça se répétait, et puis tout le monde avait bien compris ce qui était visé, c'est-à-dire les terrasses des cafés, c'est-à-dire un lieu de concert, le Bataclan, le Stade de France possiblement. Donc c'est quoi? C'est notre mode de vie, c'est la façon de vivre à la française, c'est-à-dire de passer du temps avec des amis, à parler, à faire la fête, à boire, à écouter de la musique, enfin bref, c'est quand même tout ce qui fait la vie d'un peuple, et donc c'est cela qui est attaqué, et avec en effet justement, on le comprend bien, d'ailleurs ça a été théorisé par des idéologues islamistes, qu'ils soient Al-Qaïda, qu'ils soient Daesh, tout au long des années 2000, ça a été théorisé,
c'est un lapsus, révélateur,
mais ça a été théorisé, cette volonté justement de diviser nos sociétés démocratiques, et donc ça il fallait pas y céder, et c'est vrai que ça a été l'effort du gouvernement.
Et l'échec des terroristes, cette semaine de commémoration, elle a aussi une importance politique, la semaine que nous vivons en ce moment.
Bien sûr qu'elle en a eu. D'ailleurs, on voit bien à quel point, par exemple, justement, les politiques s'en emparent, à quel point Emmanuel Macron, c'est le président qui aime les commémorations, qui aime à jouer des symboles, qui a aussi compris, après tout, qu'un chef de l'exécutif, il doit s'inscrire dans ce temps long, dans le côté mémoriel. Et donc, qu'est-ce qui va se passer au moment de ces commémorations? Donc, jeudi 13 novembre, 10 ans jour pour jour, après cette tragédie, ces attentats tragiques, il va vraiment arpenter tous les lieux qui ont été frappés par les explosions, par les mitraillades, par les attentats, c'est-à-dire le Stade de France, c'est-à-dire toutes les chacune des terrasses, chacun des cafés qui ont été visés, qui ont été ciblés ce soir, cette nuit du 13 au 14 novembre, évidemment le Bataclan, et puis après ce discours inaugural du Jardin du Souvenir, hein, qui est un jardin en face de l'Hôtel de Ville de Paris, qui est vraiment l'endroit de mémoire pour toutes les victimes des attentats. Donc oui, c'est une commémoration nationale à laquelle, en effet, tous les Français, toute la nation est conviée, parce que il est important de garder cet esprit. Vous savez, on avait beaucoup parlé à l'époque, hein, de résistance, de résilience, de faire bloc ensemble. Et ça s'était notamment ressenti, ce fameux qui était resté dans les mémoires, l'hommage national aux 130 victimes, aux 130 tués. Cet hommage national qui avait eu lieu à l'hôtel des Invalides, hein, aux Invalides, qui est vraiment le lieu par excellence de mémoire en France, qui était extrêmement émouvant, avec ces trois jeunes chanteuses qui ressemblaient tellement à la majorité, à la plupart hélas, des victimes. Donc tout cela avait marqué une certaine sobriété aussi.
On se souvient de François Hollande assis sur une chaise en train d'écouter.
Et puis les proches, les parents des victimes.
Et 10 ans après, la cohésion nationale est-elle fragilisée? Est-ce que c'est aussi le défi du président de la République d'essayer de la consolider 10 ans après ces attentats?
Alors, c'est difficile à dire aujourd'hui comment elle est, mais bien sûr, en tout cas, que c'est la mission du président actuelle, hein, mais comme ça l'était de Macron, mais comme ça l'était de son prédécesseur François Hollande. Et quand je dis que c'est difficile, mais regardez, il y a des échéances, il y a des moments qui ont été vraiment tangents, qui ont été où cette cohésion, elle a été mise à mal. Souvenez-vous du grand débat qui avait agité quelques mois après les attentats, non seulement la classe politique, mais la société dans son ensemble. Quand je dis quelques mois, c'est d'ailleurs quelques semaines. Vous savez, c'est ce projet de déchéance de nationalité pour des binationaux, donc français et une autre nationalité, qui auraient été impliqués dans des attentats, pas seulement ceux du 13 novembre, des attentats en général, puisque malheureusement, notre pays est quand même régulièrement frappé, cible du terrorisme. Eh bien, ce projet-là, qui était plutôt exorbitant de la tradition, disons, française, hein, d'accueil, de droit du sol, etc., enfin,
mais
de
il
la nationalité.
Il a fait tiquer personne, au début, quand François Hollande l'a proposé. Alors, au tout début, tous ses proches...
Oui, au tout début. Peut-être, non. Oui, vous avez raison, parce que c'est vrai qu'au début, ce qui domine, hein, on l'a dit, c'est la sidération, c'est l'émotion. Et donc, c'est vrai que beaucoup de choses ont été décidées dans l'émotion. Par exemple, l'état d'urgence, il est extrêmement dérogatoire de notre droit, j'allais dire, habituel. Hein. Il donne des pouvoirs, mais par exemple, de perquisition, y compris la nuit, donc sans le moindre mandat judiciaire, d'assignation à résidence. Il y a tout un tas comme ça de possibilités qui sont ouvertes. Et qui ont été décidés, mais dans la foulée, et qui ensuite, l'état d'urgence d'ailleurs, qui a duré 2 ans, qui a finalement, en 2017, a donné lieu à des lois qui ont pérennisé la plupart de ces mesures. Donc bien sûr qu'on a changé, mais excusez-moi, pour revenir à la déchéance, oui, donc dans cette, comment dire, dans ce choc, parce que c'est quand même un trauma pour tout le pays, hein, n'ayons pas peur des mots. Dans cette atmosphère-là, c'est vrai que dans un premier temps, tout le monde est d'accord, enfin, il y a quand même des réserves. Hein, et notamment, il y a la ministre de la Justice, la garde des Sceaux, Christiane Taubira, qui finira d'ailleurs par démissionner au bout de quelques semaines.
Qui rapidement émet des réserves.
Voilà, rapidement, elle
exprime ses désaccords. Jean-Marc Ayrault adhère totalement, en tous les cas, tout de suite.
Bien sûr. Mmh. Et donc, tout cela va quand même se traduire par pas mal de fractures. Et finalement, François Hollande, il va renoncer à ce projet.
Alors, 10 ans plus tard, la menace terroriste reste très importante en France. C'est ce que soulignent aujourd'hui les autorités. Vous l'avez souligné, Henri Vernet, les terroristes qui ont commis ces attentats du 13 novembre 2015. Ces attentats ont été planifiés depuis la Syrie. Aujourd'hui, la donne a changé. Comment la menace terroriste a-t-elle évolué? Que nous disent les experts aujourd'hui sur ces questions?
Les experts, ils se retrouvent, hein, pour dire à quel point justement cette menace, elle a vraiment évolué, elle a changé. Alors, il reste, hein, il demeure cette possibilité de, comment dire, d'actes terroristes et même de terroristes même actionnés, activés depuis l'étranger. Mais c'est vrai que les cœurs, comme on l'a évoqué là, qui se trouvaient à Raqqa, en Syrie, c'est une manière d'être être commandiqué comme ça par des califes hein, extérieurs, bah, tout cela a été considérablement affaibli bah, par les actions militaires, hein, tout simplement, bah, de la France, des alliés comme les États-Unis, comme la Grande-Bretagne, et aussi par nombre de pays arabes hein, qui ont lutté contre Daesh. Donc disons que cette menace, elle est affaiblie, mais elle n'a pas totalement disparu. On entend encore des experts, bah, par exemple, pas que des experts, je pense à la politique, hein, Catherine Vautrin, nouvelle ministre des Armées, qui elle-même a attiré l'attention dessus et en disant que bah, en Syrie, après tout, même si évidemment les nouvelles autorités sont vraiment ont une volonté affichée de lutter contre tout cela et d'en finir avec ce genre de pratiques, néanmoins, le fait que ce soit un pays un peu en soubresaut, bah, ça pourrait, craignait donc Madame Vautrin, favorisant en quelque sorte la reconstitution de certains noyaux. Enfin, c'est, en tout, clairement, ça c'est la partie un peu ténue, quoi. C'est pas le risque majeur. Non, ce qui s'est beaucoup transformé en France, c'est l'apparition d'un terrorisme, en tout cas de enfin, ça peut paraître bizarre comme terme, mais presque d'apprentis terroristes de manière endogène. C'est-à-dire, ce sont de plus en plus, par exemple, des gens très jeunes. C'est ce qui frappe les services. Quand vous écoutez quelqu'un, par exemple, comme Nicolas Lerner, le patron de la DGSE, ou des spécialistes comme Wassim Nasr, par exemple, bah, ils vous disent ça, que c'est vraiment des gens qui se radicalisent eux-mêmes, presque des auto-entrepreneurs du terrorisme.
Parfois même sur les réseaux sociaux, hein, cela arrive, mais oui. Sur ce sujet, Henri Bernet, justement, je vous propose d'écouter le député Arnaud Simion, qui est député socialiste, et il revient sur cette radicalisation au cœur des réseaux sociaux numériques.
On a un vrai problème avec le digital, avec le numérique, nos démocraties, pour l'instant, n'ont pas trouvé un moyen coercitif, justement, pour contrer ces communications, ces dialogues qui sont un vrai danger pour nos jeunesses. Et donc, ça passe aussi par l'éducation et par un enseignement qu'il faut protéger, qu'il faut accompagner. On doit accompagner nos professeurs, nos enseignantes et nos enseignants pour qu'ils puissent, dans de bonnes conditions, dire à nos jeunes et à nos jeunesses le chemin de l'émancipation.
Parce que quand le président de la République souligne que TikTok peut être une ouverture vers l'islam radical, vous dites oui, mais c'est vrai, bien entendu, cela peut aussi être une ouverture vers l'ultra-droite.
Ah ben complètement, voilà, toutes les idées les plus folles sont véhiculées sur ces plateformes et il faut pouvoir les contrer. On n'a pas encore trouvé le bon moyen coercitif pour être efficace et pour permettre à ce que les idées démocratiques, nos valeurs républicaines, ben, puissent être protégées comme il se doit.
Le député socialiste Arnaud Simion, il évoque hein, cette menace de l'ultra-droite. Est-ce une menace comparable ou d'une autre nature de celle du terrorisme islamiste? Que représente cette menace aujourd'hui en France? Elle a été soulevée déjà il y a plusieurs années par Gérald Darmanin, qui a dissous de nombreux groupes liés à l'ultra-droite.
Alors, elle existe, hein, c'est clair, mais disons que, notamment en termes quantitatifs, hein, si on peut dire, c'est-à-dire la menace réelle qu'elle ferait peser sur les pays, sur les citoyens français, elle est quand même sans comparaison, elle est très 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 faible par rapport à la menace terroriste plus globale, et notamment à la menace djihadiste, hein, qui, elle, en plus, a été quand même réactivée dans le contexte post 7 octobre 2023, avec les massacres du Hamas en Israël, puis la guerre israélienne à Gaza. Donc c'est cela quand même qui est de loin le plus fort. Mais vous avez raison, elle existe. Elle n'est pas non plus de même nature. Je pense qu'il faudrait qu'on revienne un instant quand même sur les jeunes. Mais pourquoi elle n'est pas de même nature? Parce que là, justement, bah, ce sont moins les jeunes qui sont sensibles à cette mouvance, disons, de l'ultra-droite, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Ça peut être tout le monde. Par exemple, moi, je lisais des témoignages. C'était en l'occurrence un sexagénaire. Parce qu'il y a des gens qui ont été jugés. Hein, vous avez raison, cette menace, elle existe. Il y a eu des tentatives d'attentats. Il y a eu des tentatives d'attaque de leur part.
Et comme... au sein de l'Union européenne, il y a eu de véritables attentats meurtriers de la part...
qui visant des imams, des visant des mosquées. Oui. Voilà, l'ultra-droite, c'est ça, c'est cible. Ils le disent d'ailleurs, hein, nous on veut tuer des imams frapper sur des lieux de culte musulmans. Donc tout cela existe. Mais ce que je voulais dire sur le profil, par exemple, c'est que je lisais ce témoignage d'un sexagénaire, en quelque sorte, qui s'était radicalisé en voyant devant son poste de télévision les images le soir du 13 novembre 2015, il y a 10 ans. Il voit ça et il se dit, mais c'est pas possible, il faut que je fasse quelque chose. Alors sans doute qu'il va être un peu violent et un peu spécial au début, mais quand même, c'est comme ça qu'on se radicalise. Alors il y en a d'autres, en effet, il y a des plus jeunes, mais alors qui sont tentés par cette idéologie assez sordide, assez sombre de la droite, et pour la pousser donc de l'ultra-droite, et donc pour la pousser jusqu'à l'acte. Je crois que les spécialistes, enfin les professionnels, estiment à environ 3 300 le nombre d'activistes qu'il pourrait ainsi y avoir dans notre pays. Et il faut savoir que parmi eux, je crois, plus de 1 700 sont suivis par les services de renseignement et de police. Parce que justement, la lutte contre eux, vous citiez Gérald Darmanin quand il était à l'intérieur, oui, c'est vrai que c'est un problème qui est très suivi. Il y a eu des interpellations parce que justement, c'est une des choses qui ont changé dans notre droit, qui s'est considérablement durci, c'est que l'arsenal législatif, il permet aujourd'hui d'interpeller, d'arrêter des gens avant même la constitution de tout acte violent. C'est-à-dire que c'est la fameuse association de malfaiteurs à but terroriste. Vous vous arrêtez des gens dès que vous avez un soupçon, que vous les suspectez d'avoir un plan pour passer à l'acte.
Et ça, c'est un élément important. Alors, vous évoquez cet arsenal législatif, ce nouvel arsenal législatif après ces attentats terroristes, si cet arsenal était mis entre de mauvaises mains, dirons-nous, est-ce que cela pourrait représenter un danger pour notre démocratie?
Alors, c'est une vraie question. Parce que, déjà, il faut savoir que, en France, comme dans toute société démocratique parlementaire telle qu'on les connaît, il y a quand même, là aussi, pour le coup, un arsenal contre l'arsenal maléfique. Donc, il y a des recours. Et par exemple, on a, alors, qui a sa Cour suprême? Nous, on a le Conseil constitutionnel. On a des tribunaux administratifs et avec, donc, un Conseil d'État qui surveille s'il n'y a pas d'excès administratif, justement, puisque j'ai parlé de toutes les mesures liées à l'état d'urgence. Donc, on a tout cela. Pour l'instant, c'est vrai que le Conseil constitutionnel a été amené à rectifier certaines dispositions qui étaient trop éloignées du cadre des principes constitutionnels français sur les libertés publiques et les libertés privées. Donc, il y a ça. Alors, vous avez néanmoins, toutes ces lois existent, elles sont là, donc le côté législatif, le côté, je l'ai dit, administratif, c'est très important aussi, c'est-à-dire que ça, c'est le droit tous les moyens qui sont conférés aux préfets, par exemple, aux autorités administratives, et donc évidemment à la police. Et donc tout ça, c'est vraiment considérablement renforcé. Alors ça existe, certes, il y a donc des juges suprêmes, conseils constitutionnels et autres, mais en effet, qu'en serait-il si arrive à l'Élysée, des candidats, enfin en tout cas des présidents, présidentes d'extrême droite ou d'extrême gauche d'ailleurs, parce que cette tentation du totalitarisme, elle existe sur les deux bords de l'échiquier politique. Ce serait une vraie préoccupation parce que dans ces cas-là, on est assez enclin à dénoncer au nom de la volonté populaire qu'on s'arroge, à dire mais non, attendez, moi c'est la volonté, c'est la légitimité du peuple qui m'a porté au pouvoir, et donc je n'ai que faire de contrôle Cour suprême, Conseil constitutionnel ou autre. D'ailleurs, on voit bien, par exemple, qu'aux États-Unis, c'est exactement la tentation d'un Donald Trump, c'est ce qu'il s'efforce de faire. Donc oui, c'est une vraie question. Est-ce que toutes ces lois, tout ce cadre qui est né donc de 2015, la double vague d'attentats en 2015, et puis ensuite, il y en a eu beaucoup des attentats, beaucoup plus ciblés, individuels. Je pense évidemment à Samuel Paty, un autre professeur.
Dominique Bernard,
absolument.
Les deux professeurs d'histoire-géographie.
Avec justement des jeunes qui s'étaient auto-entrepreneurs, comme je disais tout à l'heure, qui se radicalisent eux-mêmes et qui passent comme ça à l'action totalement folle. Bon, bref. bref, donc
on se souvient du prêtre aussi hein, à Saint-Étienne du Rouvray.
Oui, ce climat existe, cette réalité, elle est là. Et donc, c'est vrai qu'elle pourrait servir de prétexte à un pouvoir elle pourrait servir de prétexte à un pouvoir pour pérenniser des situations d'exception et pour en faire la norme et peut-être à terme d'ailleurs pour ne pas avoir tellement envie de rendre le pouvoir.
Ce sera ma dernière question, Henri Vernet. Vous souhaitiez parler de la jeunesse, de l'éducation face aux dangers liés à la manipulation des réseaux sociaux. Quelle est aujourd'hui la marge de manœuvre de l'État face à cela?
Mais elle est difficile. Hein. D'ailleurs, c'est assez frappant de voir à quel point Emmanuel Macron, dans sa fin de mandat difficile, hein, parce qu'il n'a plus guère de levier sur la politique nationale, donc il a plutôt tendance à embrasser des grandes causes actuellement, et bien l'une, son cheval de bataille nouveau, justement, c'est cela, c'est l'éducation, c'est comment sortir de la loi du diktat, on pourrait dire, des réseaux sociaux, des algorithmes qui sont imposés par les Chinois, par exemple, par les ingérences étrangères, les Russes, évidemment, sans parler des GAFAM eux-mêmes, hein, qui imposent comme ça leurs lois, sur lesquelles, en quelques clics, vous pouvez tomber sur les choses les plus folles, les idées les plus folles, on l'a dit. C'est vrai que c'est jeune, parce que quand on dit jeune, là maintenant, on parle désormais d'adolescents, c'est-à-dire que d'un nombre d'arrestations qui ont eu lieu depuis 2023, singulièrement depuis 2023, mais déjà depuis les années 2020, ce qui a été remarqué donc, par les services, par les policiers, par les experts, c'est l'extrême jeunesse, parfois des ados, 16, 17 ans, parfois même 14, 15, qui s'auto-radicalisent ainsi et qui préparent des actes extrêmement violents. Et donc, il y a eu des arrestations en ce sens. Donc, ça montre à quel point il est extrêmement à la fois urgent, mais difficile de lutter contre ce phénomène, parce que les moyens d'un État sont limités. C'est pour ça que je parlais de cette espèce de cheval de bataille de Macron, parce qu'il voudrait, avec ses partenaires européens notamment, renforcer des législations de contrainte, par exemple l'interdiction des réseaux sociaux à des mineurs de 15 ans, ce qui paraît comme ça fantasmagorique, mais enfin, dans sa possibilité pratique. Hein. Mais ça fait partie des pistes. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que nos services policiers, renseignements et autres ont été extrêmement renforcés dans ce sens-là, en termes à la fois matériels, financiers, mais humains. Il y a de plus en plus d'enquêteurs qui sont vraiment voués à cette surveillance-là, à cette détection-là. Donc, il y a une vraie conscience de ce risque qui est là, qui est en nous, hein, on le disait tout à l'heure, endogène, qui est vraiment en nous. Mais il y a aussi, malheureusement, le constat que la lutte efficace, elle n'est pas encore assurée à 100%, tout simplement parce que ça ne paraît pas possible. Et puis, vous l'avez dit aussi, parce que quand même, nous sommes une démocratie, un état de droit et un état de liberté. Donc, concilier tout cela, c'est délicat. J'allais dire, on a avance en marchant, hein, quand on est une autorité quelconque, mais également une société, parce qu'il faut adhérer à ça. Et donc, c'est tout le défi aujourd'hui. Et c'est vrai que cette, on peut le dire, semaine, parce que de commémoration autour du 13 novembre 2015, eh bien, ça sert aussi à cela, à cette conscientisation de tous, quoi.
Voilà, et c'est un exercice délicat, vous l'avez souligné. Henri Vernet, un grand merci. Vous êtes journaliste politique, rédacteur en chef adjoint au Parisien, aujourd'hui en France, et vous êtes aussi l'auteur de Big Machiavel. C'est aux éditions
Buchet-Chastel.
Merci Henri Vernet.
Merci à vous.
Merci à vous, chers auditeurs. Fin de coulisses politiques avec Henri Vernet. Excellente suite de programme à l'écoute de Radio Orient. Je rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur Spotify, sur les réseaux de votre radio Radio Orient, et bien entendu sur le site de Radio Orient, radioorient.com.
Coulisses politiques avec Henri Vernet.